France Culture.
Et le journal vous est présenté par Véronique Rebeyrotte. Bonsoir Véronique.
Bonsoir. Intense séquence diplomatique autour de la guerre en Ukraine, productive selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président américain Donald Trump accepte finalement de livrer des systèmes de défense anti-aérienne Patriot à l'Ukraine, soulagement sur le terrain militaire. Au Cameroun, le président Biya, 92 ans, est enfin sorti de son silence pour annoncer qu'il briguerait un 8e mandat. Paul Biya est au pouvoir depuis presque 43 ans. L'opposition camerounaise espérait bien cette fois tourner la page. La mort à 76 ans de Thierry Ardisson, figure prolifique de la télévision. Ses interviews cash ont fait trembler femmes et hommes politiques, nous dira Antoine Marette. Neuve ou d'occasion, les voitures électriques se vendent mal en France. Hakim Kasmi nous dira pourquoi tout à l'heure à la fin de ce journal. Dans l'attente peut-être d'une nouvelle annonce ce soir de Donald Trump sur des livraisons américaines d'armes vers l'Ukraine, le président des États-Unis en grande discussion à la Maison-Blanche cet après-midi avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Le président a promis hier d'armer l'Ukraine face à l'invasion russe, avec ce qui était réclamé à corps et à cri par le président Volodymyr Zelensky, des systèmes de défense anti-aérienne Patriot essentiels pour contrer les frappes russes. Voilà qui pourrait marquer une nouvelle stratégie de Donald Trump en Ukraine, agacé, semble-t-il, par les attouarnements de Vladimir Poutine, le président russe pas pressé de négocier la paix. Sur le terrain militaire en Ukraine, les soldats basés à Dnipro accueillent les futures livraisons de patriotes américains avec un grand soulagement. C'est un reportage de Bastien Bory.
Région de Pokrovsk, à 15 km des lignes de front. Ici, on parle du système Patriot comme on parlerait d'un compagnon d'armes. L'Ukraine en compte 8, répartis sur son territoire, et si Major, commandant de la 5e unité des forces spéciales Omega, n'en partagera pas la localisation, il en reconnaît le rôle vital.
Les systèmes Patriot font très bien leur travail pour protéger le ciel de nos villes et nos civils, et pour préserver les infrastructures critiques de l'Ukraine. Ils seront un excellent renforcement pour notre armée et pour notre pays.
Nul ne sait combien la Maison-Blanche en expédiera dans les semaines à venir. L'Ukraine en demande 17, mais se heurte à deux problèmes, le coût, 1 milliard d'euros l'unité, et les délais, car Washington passera par des acheteurs intermédiaires comme l'Allemagne, d'où de probables retards de livraison qui s'ajoutent à d'autres besoins urgents.
Ce qui est également indispensable aujourd'hui pour l'armée ukrainienne, c'est de compléter cet arsenal avec des drones dotés de caméras thermiques et infrarouges.
Missiles hypersoniques interceptés, avions de chasse abattus, les systèmes de défense aérienne Patriot permettent à l'Ukraine de neutraliser de nombreuses menaces venant de son voisin russe, mais les stocks s'amenuisent.
De ce côté, à Kiev, Volodymyr Zelensky salue une rencontre productive avec l'envoyé américain Kate Kellogg, qui lui a fait le déplacement donc à Kiev. Le président ukrainien s'est dit, je cite, reconnaissant envers Donald Trump pour les importants signes de soutien et les décisions positives pour nos deux pays. Sa nomination doit être encore approuvée par le Parlement ukrainien. Le président Volodymyr Zelensky propose de nommer première ministre son actuel ministre de l'économie, Yulia Sviridenko, 39 ans, s'est fait connaître ces derniers mois pour avoir négocié avec succès l'accord sur les minerais avec les États-Unis. Sa nomination, si elle se confirme, constituerait un remaniement politique majeur. Jamais 708, à 92 ans, le président camerounais Paul Biya, au pouvoir depuis près de 43 ans, annonce qu'il brigue un 8e septennat à l'élection présidentielle d'octobre prochain, le 12 octobre précisément. Paul Biya, ce sont ses premiers mots de sa 8e campagne, assure, je cite, les Camerounais de sa détermination intacte à les servir. Le doyen des présidents africains met donc fin à l'incertitude qui pesait sur sa candidature aux grandes dames de l'opposition qui pensait tourner la page de plus de 4 décennies du régime Biya. Omar Waman.
C'est sur son compte X que Paul Biya a annoncé sa candidature. Quelques mots pour assurer les Camerounais de sa détermination à relever les défis auxquels ils sont confrontés. Une phrase que redoutaient ses opposants, encore une fois divisés alors que ce scrutin est l'un des plus importants de l'histoire du pays. L'avenir du Cameroun est en jeu et plus particulièrement celui des jeunes touchés massivement par le chômage. Dans ce pays d'Afrique centrale, les 18-35 ans représentent près de 57% de la population active et n'ont connu que Paul Biya au pouvoir. Cette huitième candidature enterre leur rêve d'alternance. Et pourtant, ils espéraient voir celui que l'on surnomme le Sphinx céder la main. Ces dernières semaines, plusieurs signes pouvaient le laisser croire, comme la défection de deux ministres du gouvernement qui se sont également lancés dans la course présidentielle, ou encore toutes ces voix qui l'ont appelé à mettre fin à son règne interminable. Mais Paul Biya, dont l'état de santé est un sujet tabou au Cameroun, a tranché quitte à mourir au pouvoir. En attendant, les Camerounais se débattent dans les pires difficultés entre une vie hors de prix, des services de base insuffisants, voire inexistants, et un climat de violence dans les régions anglophones.
Des affrontements entre combattants druzes et tribus bédouines sunnites ont déjà fait 89 morts en 48 heures. Ces violences intercommunautaires illustrent les défis sécuritaires auxquels est confronté le pouvoir intérimaire en Syrie, pouvoir qui a renversé le président Bachar el-Assad en décembre dernier. Les autorités de Damas ont envoyé des renforts pour tenter de ramener le calme dans le sud du pays. Des précipitations extrêmes plus fréquentes et des températures en hausse de 0,25 degrés en plus par décennie. Depuis les années 80, le climat change aussi au Royaume-Uni jusqu'à devenir la norme. C'est ce que constate l'agence météorologique britannique après que le Royaume-Uni a connu lui aussi des vagues de chaleur ces dernières semaines, trois depuis début juin avant un été hors norme. À Londres, la correspondance de Laura Calmus.
Oubliez la pluie fine et le ciel bas, le Royaume-Uni devient un pays de plus en plus chaud, plus humide et surtout plus extrême. C'est le constat sans appel du dernier rapport du Met Office, l'agence météo britannique. Les vagues de chaleur comme celles de cet été sont désormais considérées comme normales. Depuis les années 80, le pays se réchauffe d'environ 0,25 degrés par décennie. Résultat, un printemps 2024 parmi les plus chauds jamais enregistrés, une montée des eaux plus rapide qu'ailleurs en Europe et des hivers toujours plus humides. L'hiver dernier, il n'avait jamais autant plu depuis 250 ans. Pour les climatologues, ce ne sont pas de simples anomalies, mais une transformation durable. Même la nature peine à survivre. Les saisons se décalent, certaines espèces souffrent et des forêts entières montrent des signes de stress hydrique. Le ministre de l'énergie, Ed Miliband, parle d'un mode de vie britannique menacé et appelle à une adaptation urgente face à ce nouveau climat. Un constat qui prend tout son sens cet été. Le pays vient de traverser sa troisième vague de chaleur en 6 semaines, avec des pics à plus de 32 degrés jusqu'en Écosse.
C'est une armée prête au combat face à un monde toujours plus brutal qui a défilé ce matin sur les Champs-Élysées à Paris au lendemain de la promesse d'Emmanuel Macron d'accroître encore des dépenses de défense du pays. Un défilé durant lequel l'armée française a souhaité mettre en valeur sa crédibilité opérationnelle et sa solidarité stratégique avec ses partenaires comme l'Indonésie. Pour un royaliste, mourir un 14 juillet, c'est son dernier tour de passe-passe. Les mots du DJ Philippe Cortier à l'annonce de la mort de son ami Thierry Ardisson, 76 ans, figure prolifique et impertinente de la télévision française. L'animateur et le producteur a marqué le paysage audiovisuel français dès les années 80. Ses interviews cash, intrusives, désobligeantes aussi, témoignent certaines invités EES, ont fait sa réputation. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir Véronique.
Parmi les invités de Thierry Ardisson, on retrouvait bien des hommes ou des femmes politiques prêts à jouer le jeu de l'interview cash.
Et il y a une interview qui a marqué l'imaginaire collectif français. C'était sur le plateau de Tout le monde en parle sur France 2. On est en 2001. Thierry Ardisson est face à Michel Rocard. Interview alerte rose.
Est-ce que embrasser, c'est tromper ?
Oh non.
Qu'est-ce que c'est que cette philosophie que vous nous trimballez là ?
Bah, je sais pas, je vous demande, moi. Genre...
Ça dépend du contexte et j'espère bien que non.
Ah ouais. Et sucer, c'est tromper ?
Eh, pardon ?
Sucer, c'est tromper ?
Non plus.
Non plus, bravo.
Patrick Evenot est historien des médias et professeur émérite à la Sorbonne. Selon lui, malgré la paillardise de certaines questions, les interviews de Thierry Ardisson abordaient aussi des sujets de fond.
On a oublié qu'après cette fameuse question « Est-ce que Sucé s'est trompé ?» à Michel Rocard, il avait parlé quand même pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de la CSG, de la deuxième gauche, et donc quelque chose de très sérieux.
La thèse de Thierry Ardisson, c'est que si le politique accepte de se soumettre au code du people, de répondre à des questions intimes, il réussira à faire passer son message. Mais pour Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po, le constat est bien différent.
Le politique, lui, n'en est pas particulièrement sorti grandi. Son message n'est pas particulièrement passé. Et on a plutôt assisté à un lampassage au fond de la politique dans le divertissement et finalement une conquête du divertissement sur le politique. On peut juger aujourd'hui que ça a quand même beaucoup préparé le lit du populisme.
Depuis les années 2000, la pipolisation de la politique s'est banalisée. Le style Ardisson s'est imposé dans les talk-shows et sur YouTube, souvent imité, sans être vraiment égalé.
Brigitte Macron va se pourvoir en cassation. Elle conteste la relaxe prononcée par la Cour d'appel de Paris la semaine dernière. L'affaire concerne deux femmes condamnées en première instance pour diffamation. Elles ont participé à la propagation d'une rumeur selon laquelle l'épouse du chef de l'État était une femme transgenre. L'avocat de Brigitte Macron précise que le parquet va lui aussi saisir la Cour de cassation. Qu'elles soient neuves ou d'occasion, les ventes de voitures électriques marquent le pas en France, moins 12% en juin pour des véhicules neufs et un marché de la seconde main qui lui aussi se porte mal, alors que les concessionnaires comptaient démocratiser le marché avec des véhicules électriques d'occasion moins chers et donc plus accessibles au grand public. Une voiture électrique d'occasion met désormais près de 6 mois à trouver un acheteur contre moitié moins de temps pour un véhicule thermique, essence ou diesel. Elle s'accumule donc chez les concessionnaires. Bonsoir Hakim Kassi.
Bonsoir Véronique Robérotte.
Que se passe-t-il, Hakim ? Pour quelles raisons les ventes de voitures électriques d'occasion ont du mal à décoller ?
Cela s'explique en grande partie, Véronique, par une technologie qui n'est pas encore mature. En effet, sur les voitures vendues il y a 4 ans, par exemple, l'autonomie des batteries et la vitesse de leur chargement n'étaient pas toujours très satisfaisantes. Par conséquent, aujourd'hui, les automobilistes préfèrent encore acheter une voiture électrique neuve en leasing, d'autant que les constructeurs proposent actuellement des prix bas pour attirer les particuliers, mais surtout les professionnels qui sont les plus gros acheteurs, comme l'explique Bernard Julien, professeur d'économie et expert auto à l'Université de Bordeaux.
Les prix sont beaucoup trop élevés hein, par rapport à la comparaison hein, que fait le consommateur. Le consommateur, il regarde le prix d'aujourd'hui de la voiture qu'il achète en neuf hein, ou qu'il pourrait acheter en neuf et il souhaite que le prix de la voiture d'occasion, je sais pas, à 4 ans, soit de 40% inférieur. Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors il se dit, c'est trop cher, j'attendrai que les prix soient enfin raisonnables par rapport au prix du neuf aujourd'hui.
Mais pour relancer le secteur de l'occasion, il est également important qu'il soit mieux régulé. Puisqu'en injectant trop de véhicules neufs sur le marché, les constructeurs font dans le même temps chuter la valeur résiduelle des voitures électriques d'occasion. Ce qui fait perdre en moyenne aux concessionnaires et aux particuliers qui revendent leurs voitures entre 2 et 8 000 euros. Pour tenter d'y remédier, les groupes comme Stellantis, qui détiennent par exemple les marques Fiat, Peugeot et Citroën, viennent donc d'annoncer qu'il s'engagera à l'avenir à payer la différence à ses revendeurs.
Merci Hakim. Il n'y a pas que les mégalithes de Karnak. Hier, 2 nouveaux sites africains sont entrés au patrimoine mondial de l'humanité. L'archipel des Bijagos, hein, au large de la Guinée-Bissau, et l'île de Tiwai en Sierra Leone. La Guinée-Bissau et la Sierra Leone, 2 pays qui jusqu'à maintenant n'avaient pas de site inscrit sur cette liste. Et c'est encore le cas de 9 États africains. Bonsoir Mathilde Lansquer.
Bonsoir.
Au total, cette année, 5 sites d'Afrique rejoignent donc la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais le continent reste largement sous-représenté dans cette liste.
Et oui, parce que sur les 1248 lieux inscrits au patrimoine mondial à travers la planète, eh bien, il n'y en a que 112 qui sont en Afrique. Ça fait 9%, un vrai déficit, surtout quand on voit que près de la moitié des sites sur cette liste sont situés en Europe et en Amérique du Nord. Mais alors l'UNESCO assure faire de l'Afrique une priorité, et ça passe notamment par une stratégie dédiée au patrimoine africain. Une stratégie qui se décline sur le terrain avec des actions concrètes. Explication du directeur du patrimoine mondial de l'UNESCO, Lazare Elundo.
Ça s'est traduit déjà par le renforcement et le soutien à la formation pour accroître l'expertise de professionnels locaux. Savoir des professionnels locaux dans le domaine de la conservation du patrimoine bien formés leur permet de préparer des dossiers de candidature solides, préparer la gestion durable de ces sites pour qu'ils ne soient pas affectés plus tard ou qu'ils soient après en danger. Et ensuite, de renforcer toutes les politiques de protection du patrimoine et les législations.
Alors l'UNESCO souhaite que tous les pays africains aient au moins présenté une candidature d'ici 2 ans. Il reste du travail à faire, hein, puisque vous l'avez dit Véronique, 9 pays n'ont aucun site sur la liste. Et puis être classé ne règle pas tous les problèmes. Il y a aussi la question de la préservation de ce patrimoine. Et oui, l'UNESCO tient une liste du patrimoine mondial dit en péril. Et 23% de ce patrimoine est situé en Afrique.
Merci Mathilde Lansquer. Le temps demain, mardi 15 juillet. Soleil et chaleur dans le sud-est. variable sur une grande partie du pays. Quelques ondées possibles, surtout dans le nord-est ou près de la Manche, avec des rafales de vent aussi qui vont aller jusqu'à 70 km/h. Les températures maximales seront comprises entre 30 et 39 degrés dans le sud, 39 degrés dans le Var, entre 20 et 29 degrés ailleurs, 24 degrés en Bretagne.